Bonsoir, heureux de vous retrouver. Plusieurs ports et chantiers navals de la RDC fermés au trafic. Décision du ministre des Transports et Voies de Communication pour assainir le secteur fluvial, maritime et lacustre congolais. À ceci s'ajoute l'interdiction de certaines embarcations de naviguer. Aussi, plus de 600 personnes naviguant sont sanctionnées par le ministre pour manque de qualifications professionnelles requises. Comment analyser cette série de mesures prises par le ministre des Transports et Voies de Communication? Pour en parler, nous recevons Daniel Boulungidi Kapita, conseiller fluvial et lacustre du ministre des ministère des Transports et Voies de Communication. Monsieur le conseiller Boulungidi, bonsoir.
Bonsoir.
Georges Kombo Tongaboke, il est opérateur économique. Monsieur Kombo, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Michel Nsomoué, économiste et expert indépendant. Monsieur Nsomoué, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
La RDC a enregistré plus de 150 cas de naufrages déclarés entre 2008 et 2011, soit une moyenne de 38 cas par an. Ces naufrages ont causé des pertes en vies humaines estimées à près de 4500 personnes durant les 4 années, soit une moyenne annuelle de près de 1200 personnes décédées, ce qui représente près de 100 personnes par mois qui perdent la vie sur les voies navigables du pays. Ces chiffres ont été donnés par le ministre des Transports et Voies de Communication dans un point de presse tenu mercredi dernier à Kinshasa. Pour lutter contre ces catastrophes, Justin Kalumba dit avoir pris des mesures parmi lesquelles la fermeture de plusieurs ports et beaches sur l'ensemble du territoire national et l'interdiction de certaines unités fluviales de naviguer. Plus de 600 personnes naviguant dépourvues de qualité professionnelle sont aussi frappées suivant la décision du ministre. Le ministre des Transports et Voies de Communication revient ici sur un certain nombre de pratiques qui minent le secteur fluvial, maritime et lacustre congolais. Ces propos ont été recueillis par Richard Junior Kamunga.
Au-delà de ces lacunes graves, il faut stigmatiser les interférences intempestives en violation de la loi des autorités provinciales, politiques, militaires et d'autres des services de sécurité qui très régulièrement se substituent à l'administration du ministère des Transports et Voies de Communication, tantôt pour délivrer des titres sans aucun fondement légal, tantôt pour donner des autorisations d'appareiller aux bateaux qui n'en remplissent pas les conditions, et même tantôt pour faire embarquer passagers et marchandises au grand mépris des exigences de sécurité. Fort malheureusement, en cas de naufrage, aucune de ces autorités ne reconnaît ni n'assume sa propre responsabilité. Je voudrais dénoncer aussi ici l'incompétence, doublée de la complaisance de beaucoup de nos commissaires fluviaux et lacustres, qui s'illustrent par des comportements irresponsables en obéissant sans aucune dignité qu'au pouvoir de l'argent.
Concernant toujours ces mesures du ministre des Transports et Voies de Communication, suivons à présent notre confrère Richard Junior Kamunga qui nous donne quelques détails sur les ports et beaches fermés.
Suite aux recommandations des États généraux des voies navigables tenues à Kinshasa du 27 au 29 août 2012, une commission de contrôle a été déployée sur l'ensemble du territoire national. Au terme de cette mission, le ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba Mwanangongo, ferme 53 beaches et ports, dont 30 dans la province de l'Équateur. C'est les beaches Lomata, Bosingwa et les beaches Général Mayele de Bumba. En province du Maniema, 9 ports sont frappés par les ministres, alors que 7 sont fermés dans la province orientale et 7 autres au nord Kivu. Notons que les ministres ferment 6 chantiers navals et plus de 70 unités navales sur l'ensemble du pays. L'an dernier, au mois d'août, le ministre Justin Kalumba avait déjà interdit le trafic à une vingtaine de ports.
Daniel Boulungidi, Kapita, vous êtes conseiller fluvial et lacustre du ministère des Transports et Voies de Communication. Fermer des ports et beaches sur l'ensemble du pays, interdire certaines embarcations de naviguer, ainsi que qu'interdire certaines près de plus de 600 personnes n'étant pas compétents de travailler dans le secteur fluvial, lacustre et maritime. Quelle est l'opportunité de toutes ces mesures?
Ces mesures ont été prises dans le sens à réguler, à essayer d'assainir ce secteur très vital pour notre économie. Vous savez bien qu'avec les statistiques données par son excellence, qui provient d'une étude qui a été menée par la SICOS, font déjà voir que la situation était dramatique. Et le contrôle qui a été fait au niveau de tous les ports, beaches, des unités fluviales à l'intérieur du pays, tout comme à Kinshasa, particulièrement fait voir que la situation était chaotique. Nous devons préserver les vies humaines. Nous avons besoin de cette population pour essayer de relancer notre développement de ce pays, parce que c'était vraiment une situation chaotique. C'est un peu dans ce sens-là que ces mesures ont été prises dans le sens à pouvoir préserver les vies humaines et essayer de donner une certaine revitalisation de notre secteur d'une voie navigable qui doit être la relance de l'économie de notre pays.
Alors, on sait déjà qu'au mois de novembre dernier, notre confrère junior, Richard Junior Kamunga, l'a rappelé dans l'élément que nous avons suivi tout à l'heure. Juste après les états généraux des voies navigables ici à Kinshasa, le ministre avait annoncé la fermeture d'une vingtaine de ports. Malheureusement, d'après certains observateurs, ça n'a pas été appliqué.
Ces mesures ont été effectivement appliquées. Il y a un problème, c'est que il y a un problème de suivi qui doit être fait. Les mesures ont été réellement prises et appliquées au niveau des différents ports. C'était au niveau de Kinshasa. Un suivi a été fait et ceux qui se sont mis à pouvoir se mettre en ordre, parce que la fermeture ne signifie pas une exclusion dans la navigation fluviale, mais c'est un moyen de pouvoir assainir, c'est pouvoir remettre les choses en respectant la réglementation qui est mise en place par l'autorité de tutelle. C'est pour essayer de éviter ce que tout ce qui peut être à la base des naufrages, à la base des causes de vies humaines, c'est un peu dans ce sens que c'est prise. Mais le suivi a été fait. Et ceux qui se sont mis à pouvoir remettre toute la situation en ordre se sont vus les ports réguliers et puis les remettre en exploitation. Mais le suivi, effectivement, ça a été fait.
Et donc, pour vous, contrairement à toutes ces personnes qui ont affirmé que cette mesure n'avait pas été respectée, vous dites le contraire, que ça l'a été effectivement.
Oui, ça a été fait. Évidemment, il y a toujours des cas particuliers parce que nous avons tout un service, tout le secrétariat général des transports qui est en charge de pouvoir faire ce suivi. Même son excellence, plusieurs missions ont été exécutées pour pouvoir vérifier effectivement l'effectivité de toutes ces fermetures. On peut voir qu'effectivement ces mesures ont été appliquées. Bien sûr, il y a toujours des dérapages. Il y a ceux-là qui veulent toujours à l'encontre de la situation normale telle que les choses sont en train d'être faites. Mais il y a un effort qui a été fourni pour que réellement cela puisse être exécuté normalement.
Alors, le ministre, dans l'intervention que nous avons suivie tout à l'heure, dénonce des interférences intempestives en violation de la loi des autorités provinciales, politiques, militaires, qui se substitue au ministère des Transports. Visiblement, le ministre lui-même s'est plaint et il n'a pas suffisamment de moyens pour mettre fin à tout ça.
Effectivement, il y a ce qu'on appelle la tracasserie administrative. Beaucoup de services sont à faire pour pouvoir aussi chercher à s'arroger de cette prérogative en tant qu'autorité pour pouvoir administrer ces secteurs-là. C'est ce qui fait aussi la difficulté que le ministère est tenté de pouvoir, mais nous sommes en train de prendre des dispositions pour essayer d'assainir, parce que il y a tellement une multiplicité de services qui veulent se rendre responsables de cette administration de ce transport, que au point où c'est toute cette tracasserie qui fait que même l'administration du transport, même le secrétaire général qui est censé faire ce suivi, prouve beaucoup de difficultés parce que c'est cette interférence.
Et donc le ministre s'avoue impuissant et s'avoue presque vaincu là.
Non, pas vaincu. C'est-à-dire que ce sont des efforts qui doivent être fournis. Une certaine concertation de temps à autre est toujours organisée entre les différents acteurs, les différents ministères qui sont impliqués dans ces services-là pour essayer de voir, essayer de mettre de l'ordre. Et ce sont ces concertations qui permettent à ce que nous puissions réellement trouver un minimum de résultats dans ce qu'on est tenté de prendre comme décision.
Monsieur le conseiller Daniel Boulongidi, je propose de suivre cette réaction qui nous vient de Kinshasa pour vous.
Maître Francis Do Joseph Bonzemba Lokombe depuis Kinshasa. Prendre des décisions au Congo est la moindre des choses, mais l'exécuter c'est le pire. Cette décision est un dogme de foi car seul le ministre croit en cela et non les navigants. L'idéal est de lancer d'abord un moratoire pour que les usagers du fleuve Congo se conforment aux lois en vigueur sur la navigation fluviale et la gestion des ports. Si le ministre passe outre, il viendra encore à genoux ouvrir des négociations car l'État n'a pas une compagnie fluviale et des ports susceptibles d'accueillir des navires neufs étrangères.
N'aurait-il pas fallu lancer d'abord un moratoire, accorder un moratoire pour faire beaucoup de pédagogie afin que la population puisse finalement adhérer à ces mesures du ministre.
Monsieur le journaliste, je pense que dans ce pays, le secteur fluvial dispose de ce qu'on appelle le code de la navigation. Et tous les ministres qui passent au sein de ce portefeuille du ministère des Transports ont pris beaucoup de décisions, ont signé beaucoup d'arrêtés pour essayer de réguler, pour essayer de mettre en place une réglementation, essayer d'ordonner le secteur. Mais si effectivement il n'y a pas une prise de conscience des armateurs, on ne peut pas continuer à laisser... Vous avez une unité, par exemple, un bateau qui navigue, qui est en coque en acier. L'acier, face à l'eau, il subit ce qu'on appelle la corrosion. Vous avez, et le code de la navigation lui donne un délai pour qu'il fasse à tout moment un contrôle. Mais si ce contrôle n'est pas exécuté, l'atoll continue à se corroder, il suffit seulement de quoi, et puis c'est le naufrage. Alors ce moment-là, c'est le ministre des Transports qui va en subir la peine. C'est ça le problème. Donc on ne peut pas continuer à laisser perdurer cette situation dans ce sens-là.
Georges Kombo, Tongaboke, vous êtes opérateur économique, armateur notamment. Comment vous avez reçu ces différentes mesures du ministre des Transports et Voies de Communication? Georges Kombo? Voilà, nous l'avons perdu. Michel Somoui, vous êtes économiste et expert indépendant. Vous venez de suivre le conseiller Daniel Boulongidi qui s'exprimait sur la nécessité, l'opportunité de ces mesures. Quelle est votre analyse?
Merci Alain. Je dois commencer par dire que c'est quand même un problème très délicat. Lorsque moi j'ai analysé le comportement de notre économie nationale dans son ensemble, je disais que nous sommes malheureusement dans un système du sauve qui peut, une économie de la débrouillardise. Dans un tel système, nous allons régulièrement buter à des dilemmes, et c'est le cas présent. Dans le système de navigation. Un dilemme réel. Parce que fermer comme ça à peu près 70 unités fluviales, si j'ai bien compris les chiffres, c'est une catastrophe pour l'économie nationale. Parce que le système de transport donne à l'économie à la fois son intégration et sa mobilité. Donc couper systématiquement des provinces comme l'Équateur, des autres centres-villes de consommation comme Kinshasa, c'est une catastrophe pour l'économie nationale. Mais est-ce qu'il faut laisser pour autant les gens mourir? Vous avez, j'ai entendu des chiffres, pratiquement 38 naufrages par an ou par mois, je sais pas, 100 personnes qui meurent par mois dans des embarcations hasardeuses. C'est un problème. Mais ce que je reconnais, que je félicite dans le chef du gouvernement, c'est la conscience que le gouvernement a de tous les problèmes qui rongent notre économie nationale. Mais ce que je reproche au gouvernement, c'est l'improvisation dans les mesures. Et même on a l'impression que, à force de trop vouloir faire, comme on dit en français, qui trop embrasse mal étreint, le gouvernement laisse énormément de mesures en chantier, des mesures inachevées, des mesures dont le suivi sera impossible. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui avec le petit commerce réservé aux Congolais? Où en sommes-nous aujourd'hui avec le problème de la dollarisation? nous prenons encore de nouvelles mesures dans le système de transport, en sachant que c'est un système qui fait vivre des milliers et des milliers de familles congolaises. Est-ce que ces gens vont se laisser faire, abandonner pour autant, mourir de faim et de misère, pendant qu'il y a le fleuve qui leur donne la chance de gagner des moyens de vie?
C'est alors Michel Somoué, puisque vous parlez de dilemme, quels sont les préalables d'après vous? Qu'est-ce qui aurait été dû être fait en amont?
Vous avez bien fait de parler des préalables. Le premier préalable, c'est quoi? Moi, je pense que ce problème des enquêtes qui ont été menées par le conseil a dit le SICOS ou la SICOS, je ne sais pas. Mais ces enquêtes l'ont été probablement quand même avant l'élaboration du budget 2013. Est-ce qu'en 2013, le gouvernement, quand il a élaboré son budget, est-ce qu'il avait conscience qu'il avait autant de naufrages, qu'il y avait autant de problèmes du côté du système de transport congolais? Mais à ce moment-là, le gouvernement aurait dû prendre des mesures depuis ce temps-là. Et donc, enregistrer dans son budget 2013 des mesures palliatives, des mesures compensatoires qui devraient, en quelque sorte, pourvoir aux besoins des populations congolaises au cas où un certain nombre de ports devaient être fermés. C'est pas parce qu'ils doivent être improvisés. On attend qu'un accident se fasse, 3-4 à la fois, et puis on prend une mesure en catastrophe pour dire, voilà, désormais, on frappe. L'économie ne se gère pas de cette façon-là. L'économie se gère par le système de programmation, de prévision. On fait des analyses et on les soumet à l'autorité qui maintenant programme des mesures en rapport avec la gravité des problèmes qui surviennent.
Mais entre-temps, le problème des moyens même alloués au ministère des Transports, ça reste un problème, le budget en soi.
Et maintenant, si le budget n'a pas prévu des moyens suffisants pour le système de transport devient maintenant une asphyxie pour l'économie nationale. Parce que si vous avez fermé 70 unités, comment vous appelez encore, des 70 unités fluviales, vous avez fermé, empêché autant d'embarcations de fonctionner, vous prenez autant de mesures qui sont des mesures raisonnables, à mon humble avis, qui sont des mesures raisonnables face à la catastrophe humaine. Mais lorsque vous prenez quand même ces mesures-là, vous devez maintenant voir les conséquences de l'autre côté. Les morts que vous évitez dans le fleuve par suite des accidents, des corrosions, des coques, etc. Mais vous les créez par la malnutrition, vous les créez nécessairement par la pauvreté exagérée. Vous allez exacerber les phénomènes de banditisme, vous allez exacerber l'insécurité sociale dans le pays, vous allez même énerver les gens, peut-être jusqu'à pousser certains à la révolution. Et vous allez finir par avoir des M23 de toutes parts. Et vous allez donner le discours aux autres personnes, comme par exemple, excusez-moi, j'ai cité des noms comme Jean-Baptiste Bomanza, c'est un ami que je cite, qui va dire, voilà, on n'aime pas la province de l'Équateur, parce que la province de l'Équateur vit essentiellement du fleuve Congo.
Alors, ne fallait-il pas commencer quelque part?
Il faut commencer par organiser l'économie nationale. Ça ne se fait pas par hasard. Je pense que le budget 2013, encore une fois, a péché par la copie de tout le passé. Mais il faut quand même qu'un jour le gouvernement s'arrête et réfléchisse. Quand on lui dit il faut que monsieur commence par organiser l'économie nationale, il doit savoir comment on organise l'économie nationale, on doit commencer par quoi. Et le gouvernement est sourd devant tous ces discours qu'on lui tient. Il veut venir avec des mesures brutales, des mesures improvisées et des mesures qui n'ont aucune chance de survie sinon des effets pervers.
Georges Kombo, vous êtes en ligne, vous nous suivez?
Oui, je vous suis, madame.
Oui. Merci beaucoup. Je disais que vous êtes opérateur économique, notamment armateur également. Comment vous avez reçu ces mesures du ministre des Transports et Voies de Communication?
Bon, je vous remercie, Alain. J'ai reçu ces mesures comme tout le monde, avec soulagement et avec surprise. D'abord parce que ce n'est pas la première fois que nous prenons des mesures. Vous savez que notre pays est très très riche en lois, en règlements et autres textes légaux, mais ce qui nous manque, c'est l'application. Alors j'ai suivi attentivement le conseiller Daniel, je crois, si je ne m'abuse. Quand il parle de ce qui s'est passé, il nous rappelle toutes ces situations catastrophiques, il ajoute même chaotiques, de la situation de selon les études menées par le département. Moi, je crois que la vie d'un homme non, c'est pas comme ça qu'on préserve la vie d'un homme. La vie d'un homme est chère. Et pour cela, l'État a le devoir de prendre des mesures permanentes basé sur des études. C'est-à-dire, il faut que l'État ait des politiques. Vous dites bien qu'il y avait des états généraux. Les états généraux, déjà au mois d'août 2012, on avait fermé des ports. J'ai entendu le conseiller affirmer que cela a été suivi par des mesures d'application. Moi, je suis dans le secteur, j'ai des ports, et je connais les ports qui sont fermés, mais qui sont voisins aux miens, mais qui sont fonctionnels. Et donc, ils fonctionnent.
Et donc, c'est pour vous, cette mesure n'a pas été suivie?
Non, cette mesure n'a pas été suivie. Du moins, quand je prends l'exemple de Kinshasa, je suis à Maluku, par exemple, ou je prends l'exemple de Madaka, je suis un port à Madaka. Bon, je pense que ce ne sont pas les mesures qui manquent, celles qui sont là, inondes. Ce ne sont pas ces mesures-là qui manquent. Il suffirait plutôt de savoir pourquoi est-ce que l'État est incapable de s'assumer, c'est-à-dire de jouer son rôle. Et alors, il y a mon collègue, enfin mon prédécesseur, M. Michel, qui a bien soulevé des cas précis, qui a dit qu'il faut commencer par organiser l'économie nationale. C'est vrai. Il faut aussi savoir que si il y a des accidents au niveau du fleuve, mais c'est parce que le fleuve n'est pas entretenu. S'il y a des accidents, il ne faut pas les imputer tous à l'état matériel des embarcations. Mais il faut voir ce qui est à la base de ces accidents. Parce que ces embarcations dans notre pays, dans notre fleuve ici, les gens qui roulent jour et nuit, bon, c'est ces gens, ils roulent ou ils naviguent sans le respect des conditions minimales.
Georges Kombo, entre-temps, si jamais vous avez une radio à vos côtés, je vous prie de l'éteindre pour nous permettre de mieux vous capter. Il y a un auditeur qui a, par exemple, posé la question au conseiller, pourquoi il n'y avait pas un moratoire? À votre avis, est-ce que vous pensez que ce moratoire aurait pu permettre à ces différents armateurs de remettre de l'ordre dans leur dossier, par exemple?
Non. Moratoire, c'est-à-dire quoi, on a cité les noms des ports hein, pour que... Mais vous dites à un port de fermer parce qu'il faut qu'il soit en ordre. Mais si ce port est bâti sur un tas de grosses pierres, donc il faut commencer par bombarder ces pierres. Sinon, vous n'allez pas autoriser au bateau d'aller accoster dans un port qui est rempli de grosses pierres, par exemple. Bon, et si la zone elle-même ne permet pas, ne peut pas, on peut même pas délivrer un papier, un permis de port dans un endroit où on sait que là, aucun bateau ne peut accoster. Et alors, quand le conseiller dit, parce que il parle de tracasserie administrative, il parle de l'envahissement des autres services, mais c'est le même gouvernement. Le citoyen, lui, ne voit pas cette multitude de services, il voit le gouvernement, il voit le ministère des Transports, le ministère des Transports et des Communications. Mais en tout cas, ce n'est pas simplement en fermant. Comme je vois, on va pénaliser une province comme l'Équateur. L'Équateur, par exemple, avec 53 ports que vous fermez, je vous assure, l'Équateur n'a que ça comme économie. Il n'y a pas d'entreprise à l'Équateur, par exemple.
Merci.
Il n'y a pas d'entreprise. Il n'y a pas d'entreprise économique, proprement parlant. Donc, il n'y a que ces petites embarcations, ces petits bateaux de fortune, et qui sont là par nécessité, puisque l'ONATRA n'existe plus.
Et donc, Georges Kombo, et donc, en un mot, ces mesures du ministre ne sont pas viables?
Non, ces mesures, c'est-à-dire que parce que ça préserve l'homme, ces mesures sont utiles, mais elles ne sont pas aujourd'hui... À vrai dire, elles ne sont pas appropriées parce qu'il n'y a pas,
Il n'y a pas de palliatifs. Vous Merci. Prenez des mesures pour fermer, mais vous ne donnez rien
en contrepartie
de ce que vous fermez, en contrepartie.
Merci.
Oui. Merci. Alors donc, le problème ici, c'est de mettre de l'ordre, comme maintenant nous débutons la saison sèche.
Merci.
C'est le moment pour commencer à travailler sur le fleuve.
À baliser le fleuve, voilà. Monsieur le conseiller Daniel Boulongidi, vous avez suivi Michel Somoué et Georges Kombo. Georges Kombo qui dit que ce sont des bonnes mesures, mais en contrepartie, l'État ne propose rien. Il prend l'exemple de la province de l'Équateur qui n'a que ça comme économie.
C'est tout à fait normal. Quand on vous donne les chiffres qui ont été présentés sur le nombre de ports ou les embarcations qui ont été fermées, qui ont été interdites à naviguer, ça veut dire que ce sont des chiffres qui expriment l'état des chaos. Parce que si on devait être beaucoup plus dur, ces chiffres seraient beaucoup plus importants que celui-là. C'est pour vous dire que on ne peut pas continuer à évoluer dans ces secteurs dans le sens où la réglementation existe et qu'on bafoue cette réglementation. Les amateurs sont censés savoir qu'effectivement nous utilisons une route de navigation qui est naturelle et pour laquelle existe un code. C'est comme si vous êtes sur la route, il y a des codes, vous ne pouvez pas rouler sur une route sans que vous ayez un permis. Vous ne pouvez pas rouler sans que vous ayez votre carte rose. Il faudrait un minimum de conditions et ces conditions se trouvent dans toute cette réglementation que l'État a mis en place pour permettre aux usagers de pouvoir tirer le maximum de profit.
Et en parlant de la route, Georges Kombo lui a dit, je donne juste une image, qu'on a l'impression qu'il y a des routes mais qui ne sont pas entretenues, les fleuves n'est pas entretenu.
Nous savons effectivement que dans l'analyse de ce qui a été fait comme statistique sur le nombre de morts qu'on a donné, les 4770 morts, c'est des statistiques dressées entre 2008 et 2011. Et de ces statistiques, on a tiré des conclusions pour dire quelles sont les causes qui ont été à la base de tout ça. Et dans ces causes, 50% c'était dû à quoi? Aux embarcations. 50%. Nature des embarcations, parce que le non-respect des constitutions dans les constitutions navales. Et 34%, c'était dû à quoi? On s'est dit que c'était dû à cause de l'état de cette route de navigation qui était plus balisée. Et le 16%, qui représente à peu près 20%, 16%, c'est avec le personnel navigant qui était non formé.
Alors là, réellement, monsieur le conseiller, on est dans un dilemme, comme a dit Michel Somoué. Il y a d'une part, il faut protéger, préserver la vie des citoyens. Et d'autre part, il faut que l'économie vive, il faut que les gens vivent. Mais finalement, quelles sont les alternatives qu'a prévu l'État?
Ça veut dire que pour le moment, il y a quand même, on est tenté de réguler sur les trois axes. Le premier axe, c'est au niveau du balisage du fleuve, qui est à la base des à peu près 34% des cas d'accident. Et là, il y a quand même des partenaires qui sont tentés d'appuyer parce que déjà, le fleuve, à partir de Kinshasa jusqu'à Kisangani et de Kasai jusqu'à Ilebo, il y a l'Union européenne qui a déjà loué des fonds pour pouvoir le baliser. Et ça, ça a été déjà fait et le projet est en cours. Il y a aussi la Banque mondiale avec le programme de transport multimodal qui a loué aussi des fonds pour pouvoir baliser les autres secteurs, les autres axes d'affluent. Ça veut dire qu'il y a cet effort qui est en train d'être entrepris. C'est comme ça que maintenant au niveau des embarcations, il faut y mettre beaucoup d'actions. Mener beaucoup d'actions. Les actions, c'est comme ça qu'on a commencé déjà avec les contrôles techniques. Le contrôle technique, c'est ce qui a abouti à ce qu'on puisse vérifier si effectivement les gens respectent la réglementation en ce qui concerne la construction navale. Donc c'est ça le résultat qu'on est tenté d'atteindre.
En un mot, avant que je ne donne la parole à Michel Somoué, monsieur le conseiller, mais concrètement, l'État a quand même des difficultés, surtout qu'en ne disposant pas d'une compagnie viable à ce sujet aussi.
Voilà, c'est comme ça que je tente de dire, c'est que en palliatif, parce que quand vous regardez ces embarcations, quand vous voyez les 4700 morts, même tous ces armateurs, ils ne disposent pas de contrat de transport de passagers. Vous rendez compte, ils ne disposent que de contrats pour les transports de fret. De fret seulement. Et l'unique entreprise qui a au moins des unités appropriées pour le faire, c'est la SCTP, l'ex-ONATRA. C'est comme ça que le gouvernement a alloué de fonds à la SCTP pour commencer déjà la réhabilitation du Kokolo. Le bateau Kokolo et ce convoi qui va être, qui est déjà pour les travaux, pour lesquels les travaux sont déjà en cours, c'est un palliatif à ces mesures que, qui ont été prises.
Michel Somoué, vous pouvez, Georges Combo parlait des solutions palliatives. Vous venez de suivre la réaction du conseiller. Quelle est votre position?
Non, je dis que d'abord, il ne faut même pas parler de palliatifs dans une économie qui est complètement morte comme la nôtre ou inexistante. Il faut beaucoup de courage et beaucoup de lucidité de la part du gouvernement pour ne pas mettre chaque fois le citoyen congolais devant un choix difficile. Quel choix? C'est le choix de savoir choisir, de choix entre... Enfin, c'est comme si on demandait aux citoyens congolais de choisir de quoi ils voudraient bien mourir. Et est-ce qu'il faut accepter de mourir de faim en restant à la maison parce que les embarcations sont interdites de fonctionner? Et donc vous restez à la maison, famille et enfants meurent de faim. Est-ce qu'il faut tuer l'économie nationale davantage, pour du moins ce qui nous reste comme économie nationale, en interdisant la mobilité des facteurs à travers la suspension de la navigation pour la plupart de ces embarcations, tuer des provinces entières? Est-ce que ce sont des choix qui sont complètement difficiles? L'autre choix, c'est de savoir, est-ce que, parce que tout le monde sait qu'au bout du compte, ceux qui n'ont plus rien à faire doivent trouver autre chose. Et l'autre chose, le plus facile, c'est le banditisme, le plus facile, c'est la révolte, le plus facile, c'est la rébellion. Ça peut arriver à tout moment dans ce genre de situation. Moi, je pense que le gouvernement doit être beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus responsable avant de prendre des mesures aussi importantes, bien que elles sont utiles. Je souligne bien que la mesure, elle est utile.
Parce que la vie n'a pas de prix.
Parce que la vie n'a pas de prix. Et il ne faut pas profiter non plus de cette simple situation pour simplement faire un tapage médiatique en sachant que ça ne sera suivi d'aucun effet. Personne de raisonnable ne peut aujourd'hui accepter de s'abandonner à la mort de façon si facile. C'est ça le problème que nous avons dans ce pays. J'insiste bien sur deux mots. Nous sommes dans un dilemme parce que le gouvernement nous laisse dans un système du sauve qui peut. Et donc, il faut se débrouiller. Et se débrouiller, c'est être, pour chaque homme, doit être un loup pour les autres. Parce que c'est la loi, c'est la survie.
Voilà, nous allons prendre pour vous, Michel Somoué, cette réaction qui nous vient de Kisangani en province orientale.
Chubaka, ici moi désiré, depuis Kisangani, une piste de solution à proposer au ministère des Transports, le fléau des accidents de la navigation intérieure, et que le ministre ayant dans ses attributions le transport et communication puisse faire une mise en place des commissaires lacustres, fluviales ainsi que maritimes, parce que ces gens-là sont restés des années et des années. Il y a un système de clientélisme et les problèmes de népotisme, ils sont devenus des chefs coutumiers en affectant en tout cas les non-originaires à ces postes-là organiques et les histoires vont marquer. À ce qui concerne les commissaires qui n'ont pas d'une qualité d'agent de l'État, ils ne peuvent pas engager l'État en matière de droit maritime. Ce sont des faussaires avec des faux numéros matriculés. En cas où il y a une naufrage, l'État congolais sera du moins condamné.
Voilà, Michel Somoué, parmi les solutions, Chubaka Bissimo, lui, propose la mise en place des commissaires fluviaux. Les ministres, dans l'intervention qu'on a suivie ici, fustigeaient déjà l'incompétence de ces commissaires fluviaux.
Oui, je lui dirais tout de suite que ce n'est pas parce qu'un commissaire fluvial est incompétent qu'une embarcation fait naufrage. Moi, je pense que c'est vrai qu'il y a, comme il dit, du clientélisme qui font une sorte de laisser-passer à des embarcations de n'importe quel type. C'est une réalité. Mais si les nouveaux commissaires fluviaux qui viendront vivent dans le même système où le salaire n'existe pas, c'est un simple pourboire. Et les responsabilités individuelles ne sont pas suffisamment engagées sur le plan... Je veux dire poursuivi sur le plan pénal ou sur le plan judiciaire, mais nous vivons dans le même système de concussion, de corruption, de mort, d'accident, parce que nous sommes une économie du sauve qui peut. Nous vivrons toujours des situations de dilemme entre qu'est-ce qu'il faut choisir entre deux mots. Il faut choisir, peut-être, mais il n'y a même pas de moindre, parce qu'entre deux mots graves, voulez-vous mourir de sida ou voulez-vous mourir de cancer? En fait, c'est le système dans lequel le système de gestion de notre pays nous place malheureusement. Alors, moi, j'insiste en disant que nous devons faire les états généraux de l'économie nationale, nous rasseoir et accepter que nous puissions nous critiquer face à face et en disant des vérités qui sont parfois cruelles pour que nous puissions organiser une économie qui soit vraiment une économie nationale en mettant chaque institution devant ses responsabilités.
Alors, Michel Sommet, on a finalement l'impression qu'il faut plutôt une solution globale pour répondre à ce dilemme dont vous parlez. Vous proposez déjà les états généraux de l'économie, mais il y a, par exemple, le ministre a fustigé également des interférences politiques et militaires. Comment aborder ces aspects-là aussi, en termes de solutions?
Le pauvre ministre des Transports, j'ai même pitié de lui parce que les mesures qu'il prend sont des mesures de bonne foi. Et ça, c'est vraiment la limite de sa bonne foi. On ne peut pas reprocher à un ministre de sauver des vies humaines, de prendre des mesures pour préserver des vies humaines. Moi, je le trouve plein de bonne foi. Mais malheureusement, je le dis, je le répète, il n'a pas commencé par où il faut commencer. Il prend un train qui a déjà embarqué, qui va on ne sait pas où, et il va toujours souffrir comme ça de prendre des mesures qui seront non suivies tant qu'on ne s'est pas mis assis autour d'une table tous les bons penseurs pour que nous puissions réfléchir, nous critiquer et que nous puissions vous pointer du doigt les responsables, les véritables responsables de cette situation dans ce pays.
Mais en un mot, Michel Sommet, il y avait déjà les états généraux des voies navigables au mois d'août passé. Cela ne suffit-il pas?
Ça ne suffit pas parce que les voies navigables ne sont qu'une conséquence de ce que doit être une économie nationale. Il faut savoir par où doit commencer une économie nationale. Quel est le préalable? C'est ce préalable qui est absent. Merci. C'est ce virus-là qui ronge tout le système et on va changer de pauvre ministre des Transports 1000 fois, ils prendront aucune mesure qui sera suivie d'effet. Les gens vont en souffrir tous les jours.
Georges Kombo, il y a cette réaction qui nous vient de Goma au Nord Kivu pour vous.
Gabriel Colongo Mbatia, en ville de Goma, province du Nord Kivu. La décision du ministre est inappropriée car il avait l'obligation morale de réactiver les écoles de navigation en RDC telles qu'Académie à Kinshasa. Et ensuite, il devait réhabiliter les ex-capitaines formés par la République et qui sont aujourd'hui dans la rue.
Michel Sommet parle des états généraux de l'économie. Parmi les solutions, Gabriel Colongo Mbatia qui vient de parler de Goma en Nord Kivu, lui pense à la réhabilitation des écoles de navigation. Georges Kombo, en guise de solution, qu'est-ce qu'il faut? Georges Kombo, voilà, décidément, nous avons quelques soucis avec sa ligne. Daniel Boulungidi, capitaine, je rappelle que vous êtes conseiller fluvial et lacustre du ministère des Transports et Voies de Communication. Parmi les pistes des solutions, vous avez suivi Michel Sommet, vous venez de suivre également l'auditeur qui nous écrit de Goma. Comment vous analysez ces solutions?
Réhabiliter les capitaines ou
les
écoles de navigation. Je pense que notre pays, comme je l'ai dit, nous faisons partie de ce qu'on appelle la Commission internationale pour l'exploitation du bassin Congo-Bangui ou Isanga, qu'on appelle SICOS. C'est ensemble de un regroupement de plusieurs pays qui sont desservis par ce cours d'eau, notamment le Congo, la RCA et le Cameroun et le Gabon actuellement, qui est l'Angola qui entre. C'est-à-dire que nous avons actuellement maintenant l'école de navigation, l'ex-école de navigation qui existe, qui est devenue un centre régional de formation en navigation intérieure. Donc c'est au niveau supérieur qu'on l'a élevé. Et tous ces pays, tout ce qu'il y a comme formation en navigation, c'est à cette école-là maintenant que tout le pays s'adresse. Et cette école organise régulièrement des séminaires de formation. Et actuellement, maintenant, comme vous le dites, les commissaires fluviaux sont en formation et le gouvernement a mobilisé des ressources pour pouvoir former ces commissaires fluviaux qui sont actuellement ici à Kinshasa en formation. Réhabiliter les autres écoles de formation, académie, nous savons que maintenant en RDC, il y a au moins 3. Il y a celle-ci qui existe à Kinshasa, l'école de navigation, Il y a une école qui se trouve à Kalemie et une autre qui se trouve à Uvira, qui est dans des conditions qui soient pas tellement quoi. Mais nous allons mettre.
Et en guise, quelles sont les solutions à part les mesures prises par les ministres très brièvement? On me signale que Georges Kombo est en ligne.
Parmi les mesures, vous savez déjà il y a un cadre de concertation qui a été mis en place comme l'expert le parle. Il y a un cadre de concertation qui existe déjà, c'est le Conseil supérieur de navigation. Ce conseil-là, c'est un cadre de concertation qui va permettre à ce que tous les acteurs de ce secteur-là se retrouvent autour d'une table pour réfléchir, voir comment commencer maintenant à booster l'économie et relancer l'économie à partir de ce secteur-là.
Merci, monsieur le conseiller. Souffrez que je vous arrête. Il nous reste moins de 5 minutes pour terminer l'émission. Georges Kombo, est-ce que vous êtes en ligne?
Oui, je vous écoute.
Voilà, il faut déjà aborder les conclusions. Qu'est-ce que vous proposez comme solution pour relancer le secteur fluvial?
Bon, alors, puisqu'on n'a plus le temps, je pense que la première des choses, c'est d'avoir une politique, essayer de réfléchir ensemble pour cesser de demeurer dans le verbe. Alors, moi, je pense que la nouvelle société de transport peut être réhabilitée et qu'on cesse de nous parler de cocolo, comme si nous étions incapables de nous faire doter de d'une embarcation, enfin d'un bateau passager de premier cri. Ne fût-ce qu'avec le passif, avec tout ce que l'ONATRA dispose comme patrimoine immobilier, actuellement complètement amorti, avec tout ce que l'ONATRA dispose comme mitraille, on peut avoir de l'argent, un cash flow pour permettre à l'ONATRA de se refaire une vie. Alors, moi je crois qu'il faut parler, pour sauver les êtres humains, parler de la formation de navigants, mais aussi mettre de la discipline entre les différents services de l'État, qu'il soit mis fin à cette multitude de taxes et de services qui environnent les ports et qui chargent. Vous savez, quand je prends l'exemple de Maluku, je connais à Maluku un service de l'armée, force aérienne, qui ne fait que percevoir le carburant, prendre du carburant et de l'argent, sans visiter qui que ce soit, ni savoir qui est dedans, ni inspecter. Mais cela au vu aussi de toutes les autorités de la République. Alors, moi je crois qu'il faut toutes ces tracasseries-là doivent être évoquées et alors dénoncées, mais alors sanctionner les responsables qui sont connus, et qu'on ne paye pas au ministère des Transports et des Communications si le service attendu de ce ministère n'est pas fait, c'est-à-dire arranger le fleuve Congo. C'est-à-dire, comme on a dit, là, on est en train de travailler, j'ai entendu.
Merci.
C'est revenir sur le balisage, mais qui est trop court. Mais il faut que il soit visible. On continue encore, les gens continuent encore à laisser des accidents.
Merci Georges Kombo. Merci Georges Kombo. Nous allons terminer dans moins d'une minute. Michel Sommet, vous êtes économiste et expert indépendant. Il y a d'autres analystes qui pensent qu'il faudrait également beaucoup de pédagogie pour que la population puisse comprendre toutes ces mesures.
Écoutez, tout ça c'est bon. Formation, pédagogie, des commissaires qui sont en formation, des écoles de navigation. Aujourd'hui, nous parlons du secteur des transports. Hier, nous parlions du problème de la défense nationale, de la sécurité, le problème de l'énergie avec la SNEL, avec la régie des eaux. Nous allons parler du problème de la santé, de l'éducation nationale. On a même le problème du transport. On a parlé de transport maritime et fluvial. On a parlé de 207 qui sont en esprit des morts. On va parler du système de l'agriculture parce que les gens meurent de faim. Je vous dis que tous les secteurs de la vie nationale sont mort. Et donc, ce n'est pas en cherchant à résoudre le problème dans un seul secteur comme celui-là, on va sombrer dans la même...
Et donc, il faut un dialogue national.
Il faut nécessairement une table ronde des États généraux sur l'économie nationale pour que nous puissions savoir où se cache le diable. Parce que le diable existe quelque part.
Merci. Monsieur le conseiller Boulongui, dit juste un mot pour terminer. Peut-on espérer que ça ira mieux dans ce secteur?
Transporter. Si vous voulez développer, il faut transporter. Et ça, c'est un slogan qu'il faut arriver à matérialiser.
Merci.
Donc, le secteur de transport reste la locomotive de l'économie, donc
merci.
Il faudrait y travailler là-dessus.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Bonne suite au programme sur Radio Capitale.